Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Le sommeil des enfants, c'est l'une des grandes affaires des parents et des grands-parents. Comme le dit la pédiatre Catherine Guéguin, ils ne savent plus à quel sein se vouer, vont sur internet, consultent médecins, psychologues et ne savent plus quoi penser. Alors avec nos experts, nous allons essayer de répondre aux questions récurrentes que vous vous posez. À partir de quel âge font-ils vraiment leur nuit? Ça veut dire quoi d'ailleurs, faire ses nuits? Pourquoi certains bébés pleurent avant de se coucher? Faut-il les laisser pleurer dans leur lit? Pourquoi certains enfants hurlent avant d'y aller? Comment lui apprendre à s'endormir tout seul? Que faut-il vraiment éviter pour ne pas les exciter? Faut-il les laisser dormir dans notre lit en cas de cauchemar ou de terreur nocturne? Éléments de réponse tout au long de cette émission. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Ma vie de parent, c'est tous les mercredis vers 11h-20. Au menu cette semaine.
Oh, vous savez, vous pouvez compter sur moi pour les recettes miracles. Donc oui. Voilà, sur le sommeil, ça va être.
Vous êtes bien connu pour ça, Gwenaëlle. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Elle pleure.
Oui, chaque fois que je la recouche.
Elle a peut-être soif.
Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent.
Qu'est-ce que je fais?
On a acheté du sirop de la barre.
Ouais. Essaie de la recoucher, on va chanter.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Pas sûr que les berceuses suffisent à endormir les enfants comme dans Trois hommes et un couffin. Bonjour Héloïse Junier.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, docteur en psychologie du jeune enfant, formatrice, journaliste scientifique et vous animez sur les réseaux sociaux la Psy Contre-Attaque. Vous publiez chez Duno le sommeil du jeune enfant basé sur des données scientifiques et c'est très drôle, c'est très bien écrit.
Merci.
Bonjour Catherine Acouboisiz.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions parentales et vous co-signez le dossier et le sommeil, on en parle dans la toute nouvelle revue Les Maternelles d'Agathe Le Caron. Bonjour Anne-Lucas.
Bonjour.
Habituée de cette émission, vous êtes infirmière puéricultrice, spécialiste de l'attachement. Bon anniversaire d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui.
Merci
de remplacer au pied levé la puéricultrice Laurence Rameau, hélas coincée dans un train en panne entre Rennes et Paris. Alors, Héloïse Junier, rien de plus trompeur que l'expression « dormir comme un bébé ».
Exactement, c'est très 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 mensonger pour les parents qui veulent s'atteler à la parentalité, effectivement. Les réveils nocturnes sont très fréquents, effectivement. D'ailleurs, c'est l'un des premiers, motifs de consultation chez le pédiatre, c'est les problématiques de sommeil.
Oui. Alors, des parents qui rencontrent des difficultés avec le sommeil de leur enfant, ce n'est pas très original.
Et non, c'est pas original. Et je pense d'ailleurs que plus les parents idéalisent le sommeil de l'enfant comme proche de celui de l'adulte, plus ils déchantent et moins ils vivent bien les nuits et plus ils vont consulter du coup le pédiatre pour que ça s'arrange. Oui.
Et votre livre est né il y a 5 ans, la naissance de votre fille. Vous êtes très très déstabilisé par son sommeil. Et bien sûr, vous recevez un tas de conseils de l'entourage, du corps médical, des conseils qui ne fonctionnaient pas forcément.
Et non, et en fait, c'est ça, parce que j'ai beau être psychologue, avoir un doctorat en psychologie, j'étais complètement, et pour rassurer les parents, paumée par rapport au sommeil. Parce qu'en fait, dans notre cursus de psychologue, on n'a pas de données vraiment scientifiques sur le sommeil. Et là, comme ma fille dormait très mal, je suis pris une claque en tant que parent. Je me suis dit, ok, il faut que je m'attelle à la thématique du sommeil, mais comme avec la rigueur d'un thésard, en fait. Donc, j'ai foncé la tête baissée dans le sommeil. Et depuis, je rassure tout le monde, ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, je connais mieux le sommeil.
Anne-Lucas, les parents prennent une grosse claque au moment de la naissance de leur enfant et de la découverte de leur sommeil.
Oui, c'est toujours très décousu au départ. Et puis, je rejoins assez l'idée du fait que si on s'imagine que les bébés dorment comme les parents ou vont dormir facilement, on peut facilement être décontenancé aussi. Après, je pense aussi que c'est la vision du sommeil dépend aussi du point de vue du parent et du ressenti du parent. Il y a des parents qui se lèvent une fois par nuit, sont épuisés. Moi, j'ai vu d'autres mamans se lever plusieurs fois par nuit. Bon, je me lève et tout le monde se rendort et finalement, ça va. Voilà, ça dépend aussi un petit peu de ça.
Catherine Acouboisiz, il est très important pour vous de dédramatiser cette question du sommeil.
Exactement, là, dans le magazine Les Maternelles, on a essayé vraiment d'aider les parents. On faut quand même savoir, sous votre contrôle, je crois qu'on perd 44 jours de sommeil la première année de vie du bébé. Donc dit comme ça, ça fait très très peur. Et donc on a essayé de donner le maximum d'astuces pour supporter ces nuits qui durent dure en moyenne 4h44. Je donne des chiffres parce que c'est parlant. Voilà, donc c'est vraiment, c'était vraiment l'idée d'essayer d'épauler les parents dans cette première année. Et puis après, on dira peut-être jusqu'à quand ça dure. On va pas effrayer tout de suite les auditeurs, mais ça dure quand même un certain temps. Je crois que les 6 premiers mois sont très très complexes. Oui.
Alors tout d'abord, pas besoin d'apprendre un enfant à dormir, il sait le faire tout
oui,
seul. Hein.
Il sait le faire tout seul depuis la vie intra-utérine. Effectivement, en fait, on va lui apprendre, on va essayer de l'accompagner, d'optimiser son sommeil. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais la mélatonine, le cortisol sont des ingrédients à réguler, mais il sait dormir depuis la vie intra-utérine.
Pourquoi est-il important que les parents, les grands-parents connaissent les bases du mécanisme complexe du sommeil?
En fait, c'est vraiment ce que j'ai découvert avec tous les constats de la chronobiologie. Plus le parent connaît comment fonctionne le sommeil en profondeur, plus il va réussir à créer des habitudes de sommeil favorables pour leur enfant. Par exemple, alors rapidement, ce que j'ai pu voir dans les recherches depuis quelques années, c'est que plus le niveau de mélatonine est élevé, plus l'enfant s'endormira facilement et moins il aura de potentiel réveil nocturne. Or, la mélatonine, c'est l'hormone qui se sécrète dans l'obscurité. Donc, genre typiquement, avant de dormir, une demi-heure environ, on va essayer de diminuer la luminosité de l'environnement et favoriser des lumières oranges plus diffuse, par exemple. C'est tout bête, mais c'est quelque chose à prendre en compte.
Sans culpabiliser les parents, est-il vrai qu'une majorité de problèmes liés au sommeil des enfants sont justement liés à des habitudes défavorables?
Et oui, alors c'est ce que montre la recherche. On n'est pas le chiffre exact, c'est difficile de chiffrer, mais une majorité en fait serait liée à des habitudes défavorables, mais dues à une mauvaise compréhension du sommeil de la part des parents. C'est vrai que plus on vulgarise ces connaissances-là, plus les enfants dorment mieux. Alors, ça, c'est pas révolutionnaire, il n'y a rien de miracle, mais ça peut optimiser. En tout cas, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Après, il faut attendre.
Anne-Lucas.
Oui, j'aimerais rajouter aussi qu'il y a une histoire de séparation dans le sommeil. Et moi, j'ai vu beaucoup ça en PMI, c'est-à-dire que quand on parle du sommeil, on parle de séparation, ce qui n'est pas toujours facile de laisser partir son bébé dans le sommeil pour une maman ou un papa. C'est pas facile parce que le congé maternité, encore une fois, est trop court et donc on est à peine revenu de l'accouchement, que les nuits sont hachées, qu'il faut repenser à retourner au travail, à laisser son enfant, à le quitter. Et toutes ces problématiques-là se rejouent un petit peu dans le sommeil. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que moi je posais toujours la question, comment il dort votre bébé? Et en fait, souvent, contre moi, il dort bien, mais dès que je le mets dans son lit, il se met à pleurer. Voilà, il y a aussi cette manière d'appréhender le sommeil dans des cultures différentes de nous. Les bébés sont portés à bras, au dos, très souvent. On ne se pose pas du tout cette question des pleurs et du sommeil. Dans notre culture à nous, on a beaucoup favorisé la séparation, le lit, le silence, le calme, ce qui correspond pas toujours forcément non plus aux besoins du bébé, même si je rejoins beaucoup sur les rituels du calme le soir, l'obscurité, etc.
Catherine Lacouboisie.
Oui, en fait, les rituels d'endormissement, on en parle beaucoup dans le dossier, il y en a plein. Et ce qui est intéressant, je trouve, d'après les experts que j'ai pu interviewer, c'est de vraiment se faire confiance aux rituels qu'on va mettre en place nous. Il n'y a pas de solution miracle et chacun va trouver ses trucs et ses astuces. Et si on est bien avec ces rituels, je crois que vous serez d'accord pour dire, Héloïse, si on est à l'aise avec le fait de prendre son bébé, qu'on aime bien l'endormir contre soi, ça se passera bien. Le problème se pose quand on est épuisé et qu'on n'a plus envie de le faire. Il faut savoir changer ses rituels aussi.
Et Louise Junier.
Oui, complètement, effectivement. C'est vrai que beaucoup de parents se mettent la pression pour ne pas être trop proche de leur bébé, pour ne pas bercer leur bébé, même pour ne pas s'endormir avec leur bébé. Et en fait, il faut savoir que dans notre culture à nous, on a une culture de ce qu'on appelle l'autonomisation précoce du jeune enfant. C'est culturel, c'est un parti pris, on peut faire autrement et c'est aussi OK.
Alors, trois éléments à retenir, Héloïse Junier, vous l'avez évoqué, la mélatonine, le cortisol et la température corporelle. C'est très important. Revenons sur cette mélatonine. Plus son niveau, c'est une hormone la mélatonine, plus son niveau est élevé et plus l'enfant a des chances de s'endormir. Et si ce taux de mélatonine est bas, c'est l'inverse.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, la question se pose aussi la nuit pour la veilleuse. Beaucoup de veilleuses dans le commerce sont trop fortes, trop blanches et du coup peuvent freiner la mélatonine si l'enfant y est exposée la nuit. Donc aussi, il faut faire attention au choix de la veilleuse.
Parce que la mélatonine commence à être sécrétée en milieu de soirée à mesure que la luminosité diminue.
Complètement, tout à fait.
Alors comment favoriser une bonne sécrétion de mélatonine?
Et bien alors justement, c'est avant de dormir, on va éviter les lumières trop fortes, les spots, les LED, les écrans, parce que ça diffuse une lumière bleue qu'on appelle chronotoxique, pour venir vraiment favoriser la libération de mélatonine dans le cerveau de l'enfant.
Une autre hormone à prendre en compte, le cortisol. Cette hormone du stress peut ralentir l'endormissement.
En fait, le cortisol va avoir un effet, elle risque de bloquer l'hormone de l'endormissement, donc la mélatonine. Donc idéalement, pareil, avant que l'enfant s'endorme, il faut avoir un maximum de rituels pour rendre l'environnement très prévisible. On peut le masser pour diminuer un petit peu le niveau de cortisol. On peut avoir des activités qui vont vraiment le détendre pour favoriser cette diminution du cortisol et ainsi cette élévation de la mélatonine.
Et il faut éviter au maximum les émotions désagréables. Anne-Lucas.
Oui, tout à fait. Je pense qu'un environnement calme, un environnement serein, un environnement chaleureux, voilà. Et puis, ça, tout dépend de quel âge on parle. Le sommeil est très différent si c'est un nouveau-né ou un tout petit, ou à partir d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou si on parle de cauchemars.
On vous a perdu, Anne-Lucas. On va essayer de vous retrouver. Gonelle Boulet.
Oui, je me demandais, mais je parle sous contrôle, c'est plus une question. Il y a aussi la question, j'ai l'impression, de ce qu'on projette en tant que parent dans le sommeil. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vu, moi, autour de moi, des gens ayant eux-mêmes eu des sommeils difficiles enfants, des problèmes nocturnes, et finalement, avant même que le bébé ait posé des questions de sommeil, il y avait un espèce de surinvestissement dans des rituels à rallonge, une angoisse finalement qui était projetée sur l'enfant, alors que l'enfant n'avait pas foncièrement exprimé des problèmes de sommeil, des rythmes qui ne sont pas les nôtres, ok. Mais je me dis que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de projections entre si on est très très à l'aise avec cette idée du noir, de la séparation, du sommeil, que c'est quand même cool de dormir, quoi, tout ça. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Je dis pas que c'est idem, ça doit pas culpabiliser, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, non ?
Héloïse Junier.
Oui, c'est très variable selon les parents, mais comme on le disait tout à l'heure, ça dépend de la manière dont le parent vit son sommeil, dont il vit la séparation, dont il vit la proximité aussi avec son enfant. Même il y a des parents, enfin c'est drôle parce que je connaissais des parents qui me disaient, voilà, mon enfant se réveille 10 fois par nuit, et en fait, on a fait ensemble en consultation un agenda du sommeil, et en fait, l'enfant se réveillait 3 fois par nuit, et il le vivait super méga mal, alors que d'autres parents, l'enfant se réveille plus souvent, il le vit beaucoup plus mal, donc c'est très très variable et très subjectif, vous avez raison, oui.
Alors, on a parlé de la mélatonine, du cortisol. Pourquoi est-il important, troisième élément important, de contrôler la température corporelle de l'enfant? Parce qu'une température élevée freine l'endormissement?
Mais oui, complètement. Et la qualité du sommeil aussi la nuit. Et en fait, on voit que pour qu'un enfant s'endort bien, enfin facilement, il faut que la température corporelle ne soit pas trop élevée. Et ça, c'est the ingrédient auquel on ne pense pas du tout. Et pourtant, qui est vraiment primordial. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est éviter de surchauffer l'enfant. Alors, surchauffer la chambre, petit 1, pas plus de 19-20 degrés. On va aussi éviter de surcouvrir l'enfant comme s'il partait à Koh Lanta en Laponie. C'est ce que font beaucoup de parents, et moi la première, j'ai fait ces erreurs-là, je le reconnais. On va aussi ne pas surcouvrir ses pieds. On sait que ses extrémités vont gagner 1 degré la nuit. Donc, plus il aura chaud aux pieds, plus ça peut créer aussi des réveils nocturnes. Donc, vraiment faire attention à ne pas le surchauffer, en fait.
Et nous accueillons le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et grand spécialiste du sommeil. Merci d'être avec nous, Patrick Lemoine. Quelles sont les grandes particularités du sommeil du jeune enfant qui ne ressemble pas du tout à celui de l'adulte ?
Alors, tout dépend de l'âge, bien sûr. On peut parler du sommeil in utero. Et on sait maintenant, par exemple, que le fœtus a du sommeil agité, ce qui est en fait du sommeil paradoxal, et donc que probablement le fœtus rêve. Et puis ensuite le nouveau-né, puis le bébé, puis ensuite le jeune enfant et l'adolescent. Et chaque âge a des caractéristiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est au cours du sommeil, comme disaient nos grands-mères, que les enfants grandissent. C'est-à-dire que la totalité de l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil. Il y a même des études qui montrent que des populations d'enfants pauvres à New York ne grandissaient plus juste parce qu'il y avait un bruit la nuit terrible. Ils n'atteignaient jamais le stade de sommeil en profond. Et que de ce fait, ils ne grandissaient pas et qu'il a suffi de leur mettre des boules quies pour qu'ils se mettent à grandir. Donc, une chose importante, c'est de savoir que le sommeil est essentiel. Un nouveau-né, il peut dormir jusqu'à 20 heures sur 24. Il se réveille juste pour prendre le sein au biberon, et puis après, il se condort.
Docteur Patrick Lemoine, on va essayer d'améliorer la liaison qui n'est pas très bonne sur les particularités du sommeil du jeune enfant. Héloïse Junier, ce sont jusqu'à 2-3 ans des cycles de sommeil courts avec évidemment à la clé des réveils qui peuvent être fréquents.
Et oui, parce que plus il y a de cycles, plus ils sont courts, plus il y a de cycles dans une nuit et du coup plus il y a de potentiels réveils entre deux cycles. À la base, ces réveils sont physiologiques, ça peut être soit des micro-réveils, soit des pleins réveils. Mais donc effectivement, plus l'enfant est jeune, plus ces cycles sont courts et en plus, plus il y a de moins souvent il a de phases de sommeil lent profond. Donc effectivement, à la base, sur un plan strictement physiologique, il n'est pas aidé à faire des nuits complètes.
Et puis le sommeil des enfants peut être perturbé par des parasomnies. Les parasomnies, ce sont des événements physiques indésirables ou des expériences indésirables qui se produisent à l'endormissement, pendant le sommeil ou au réveil. Et à chaque âge, sa parasomnie.
Oui, alors en fait, il y a beaucoup de parasomnie jusqu'à l'âge à peu près de 5-6 ans. Il peut y en avoir bien sûr par la suite, mais on voit des pics de parasomnie. Ça peut être des rythmes nocturnes où l'enfant se balance comme ça de droite à gauche. Ça peut être du bruxisme où l'enfant, c'est insupportable à entendre, grince des dents. Ça peut être des terreurs nocturnes, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de troubles, de choses qui vont venir perturber son sommeil la nuit. En plus de ce cycle court, en fait.
Alors, à quel âge les enfants commencent-ils à faire leur nuit? Une idée reçue voudrait qu'ils les fassent autour de l'âge de 4 mois. Alors que disent les études scientifiques?
C'est vraiment une idée reçue. Il ne faut pas le dire aux parents parce que les pauvres parents, et après, ils sont en PLS chez le pédiatre. Ils ne sont pas bien. Non, en fait, il n'y a aucune. Enfin, on dit que 5-6 mois, l'enfant peut faire des nuits complètes. Il y en a qui le font bien avant. Et en fait, personne n'est capable de dire à quel âge l'enfant dormira. Ça dépend aussi de son tempérament. Ça dépend de sa vie à la maison. Et par exemple, on voit sur le tempérament, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, que les enfants qui ont un tempérament qu'on dit hautement réactif, donc qui naissent avec une réactivité plus forte que les autres, auront plus de mal à faire des nuits complètes. Ça dépend aussi s'ils dorment avec quelqu'un ou pas. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc pas d'âge.
Anouka, ça veut dire quoi exactement, faire ses nuits?
Alors, pour les parents, faire ses nuits, c'est arriver à dormir plusieurs heures d'affilée sans être réveillé. C'est arriver à se coucher en se disant qu'on va pas être réveillé dans l'heure d'après. Voilà, c'est ça. Après, faire ses nuits, c'est très vague et très vaste. Il y a des bébés qui, effectivement, font leur nuit 2 mois, 3 mois. Ça existe. Il y a des enfants qui vont faire des nuits complètes à 1 an, voire 2 ans, parce qu'ils vont se réveiller une fois la nuit pendant longtemps, plus ou moins longtemps. Donc, courage aux parents. En même temps, tous les enfants grandissent, tous les enfants se mettent à dormir. Et j'ajouterais qu'à l'âge de l'adolescence, on a du mal à les réveiller.
Catherine Acouboisi.
Je crois que ce qui est difficile pour les parents, c'est justement que la voie n'est pas tracée. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On a une énorme attente parce que nous, on a besoin de dormir aussi. Enfin, si on dort pas, ça va mal se passer dans la journée. Et donc, il y a ces phénomènes aussi d'hypervigilance qui sont développés. Agathe Le Caron, qui incarne le magazine, l'a confié dans son interview. Elle souffre d'hypervigilance, elle dit, depuis 8 ans, parce que son fils a 8 ans. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué d'avoir à se réveiller souvent. Après, on n'arrive plus à trouver un rythme aussi apaisé soi-même. Et puis, il y a aussi cette angoisse de séparation dont on a parlé un petit peu. On a tous connu ce moment où on vérifie que l'enfant dort. Voilà, et on reste là-dessus longtemps parfois. Ça peut arriver de ne pas réussir à s'en séparer.
Et Louise Junier?
Oui, alors c'est vrai que le manque de sommeil chez le parent est absolument non négligeable et je pense sous-estimé. Et c'est vrai que ça nuit à la vie de couple, ça nuit au travail, ça nuit à la productivité, concentration, c'est compliqué.
Gwenaëlle Boulay.
Ah non, mais j'écoute. En fait, moi, les miens ont un peu grandi, donc j'avoue que ce qui est marrant, c'est qu'on oublie un petit peu dans la vie. Et ce qui est terrible, c'est que l'âge où ils se mettent à vraiment bien dormir, c'est nous qui commençons les insomnies. Donc la vie est très mal faite.
Anne-Lucas.
Oui, je voudrais ajouter que le rythme est aussi important pour les bébés, les tout-petits, c'est-à-dire que le bon sommeil de la journée prévoit aussi un meilleur sommeil la nuit. C'est pas parce que l'enfant va pas du tout dormir la journée qu'il va mieux dormir la nuit, ça c'est en général le contraire qui se passe. Et puis, c'est aussi l'apprentissage des parents à reconnaître les signes de fatigue, à pouvoir proposer le sommeil au bon moment. Et c'est vrai que quand ils sont tout petits et qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi, je parle toujours du congé maternité, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les parents qui ont déjà cette deadline-là, ça n'aide pas non plus. On est pressé que l'enfant dorme, on est pressé qu'il fasse ses nuits, on est pressé qu'il fasse la sieste, on est pressé pour ça. Et en fait, il ne faut pas être pressé et l'enfant ne peut pas être pressé. Et le rythme du parent est différent du rythme du bébé.
Docteur Patrick Lemoine, est-il vrai que la durée de sommeil des enfants dépend de nos gènes?
Oui, des enfants et des adultes aussi. Effectivement, il y a deux paramètres qui sont vraiment influencés par notre bagage génétique. C'est d'une part, effectivement, d'être un long, un moyen ou un court dormeur. Et on n'y peut rien. La moyenne des adultes, c'est 7h20. Pour les tout-petits, il faut quand même que ce soit beaucoup plus long. Il faut que ce soit, on va dire, entre 16 et 20 heures par 24 heures. Et puis le fait d'être du matin ou du soir. Et ça m'amuse toujours beaucoup de voir les tout-petits-enfants. Moi, je parle de mes petits-enfants. qui, pratiquement depuis le début, certains sont nettement plus du matin, d'autres nettement plus du soir, et qu'ils vont probablement le rester toute leur vie. Mmh. C'est un effet génétique.
Allez, restez avec nous dans un instant. Nous verrons que faire en cas de cauchemar ou de terreur nocturne. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. On se retrouve juste après Fest 1, 2, 3, 4 à 10h25. Fest, 1, 2, 3, 4. Et ne persiflez pas sur mon anglais, Gonel Boulet, s'il vous plaît.
Je ne me serais pas permis.
Tu t'es pleuré.
Grand bien vous fasse.
Je vais la prendre. Laisse-la pleurer, elle cherche son sommeil, elle va s'arrêter dans deux minutes.
Mais non, c'est sûrement son rôle.
Je te dis que plus tu la prends dans tes bras, plus tu retardes le moment où elle s'endormira.
Ali Rébéi.
Tes conseils, hein. Je sais bien que tu la laisses broyer des heures, mais moi je peux pas. Voilà.
Sur France Inter.
Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions et vos témoignages sur le sommeil des enfants. Deux options pour nous contacter, le 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Alors, beaucoup de questions sur les cauchemars et les terreurs nocturnes. Est-ce la même chose, Héloïse Junier? Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de l'enfance. Le cauchemar d'abord.
Alors, le cauchemar et la terreur nocturne, effectivement, ne sont pas du tout le même phénomène, même si beaucoup confondent, en fait, sur le terrain. C'est ça qu'on va voir comment on les distinguer vraiment. Le cauchemar, c'est un mauvais rêve, en fait, et en fait, il fait très peur à l'enfant, et quand l'enfant se réveille, il est pleinement réveillé. C'est-à-dire qu'il peut être en relation avec le parent. Alors que la terreur nocturne, l'enfant a l'air terrorisé, il est souvent, il peut être assis, il y en a qui peuvent se lever aussi, il est transpirant, il a les yeux comme ça, très très ouverts.
C'est un éveil incomplet, hein. Le corps se réveille alors que le cerveau est endormi.
Complètement. Ce que je vois dans le livre, c'est un réveil incomplet qui survient en sommeil lent profond, alors que le cauchemar survient en sommeil paradoxal. Donc effectivement, c'est pas du tout la même manière de réagir et c'est pas du tout les mêmes phénomènes qui se jouent dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là.
Alors que faire quand son enfant hurle dans la nuit ? Quelle est la bonne attitude?
Déjà, garder son calme. Ouais. Parce que déjà, c'est dur pour les parents de voir leur enfant les réveiller et hurler la nuit.
Que faut-il faire?
Et alors, en fait, ça dépend aussi à quel moment ça survient. Le cauchemar, on sait que ça survient en deuxième partie de nuit, vers à peu près 4-5 heures du matin, alors que les terreurs nocturnes arriveront plus en sommeil lent profond, donc en début de nuit. 1 heure à 3 heures après l'endormissement. Dans tous les cas, on va voir l'enfant, bien évidemment. Et en cas de cauchemar, rapidement, on va pouvoir rassurer l'enfant par notre présence. Il faut vraiment qu'il soit rassuré avant de retourner au lit, pardon. Et pour la terreur nocturne, le mieux, je trouve, c'est de rester à côté de l'enfant, d'attendre que la phase redescende. Les terreurs nocturnes, environ, peuvent durer de 1 à 10 minutes. C'est très variable selon les épisodes.
Docteur Patrick Lemoine, on sait pourquoi certains enfants, certains bébés font beaucoup de cauchemars ou de terreurs nocturnes.
Alors, juste un petit truc pour être sûr de bien différencier les deux phénomènes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, en cas de cauchemar, le gamin, je peux vous dire, il s'en souvient très très bien le lendemain matin, alors que la terreur nocturne, il n'y a aucun souvenir. La terreur nocturne, c'est juste que le cerveau n'a pas atteint la maturité. C'est un problème neurologique. Enfin, c'est même pas un problème, c'est quelque chose de neurologique. Il n'y a rien à faire, à part ce qui a été dit, c'est-à-dire rassurer l'enfant, le remettre gentiment au lit, et tout rentre dans l'ordre. Et puis, de toute façon, ça guérit toujours en quelques années. 2, 3, 4 ans. En revanche, le cauchemar, effectivement, en général, c'est lié à un petit stress dans la journée. En fait, c'est le cerveau qui fait son job de faire digérer les événements. Donc, ça peut être un petit camarade à l'école qui m'a fait une crasse, la maîtresse qui a été injuste, ou au contraire, un conflit chez les parents, voire un divorce ou le chômage. Enfin, des tas de petits problèmes. Donc, on voit bien que les cauchemars qui sont en effet des mauvais rêves, qui s'accompagnent pas de transpiration, et qui sont plutôt en deuxième partie de la nuit, doivent être quand même pris en charge, on va dire, de manière psychologique. Et pour moi, la façon la plus simple, celle que je pratique depuis toujours, c'est simplement, le lendemain matin, on demande à l'enfant de soit dessiner, si c'est pas encore écrire, soit de raconter son rêve par écrit ou par dessin. Et de trouver un scénario de bonne fin, une happy end. Moi, j'ai un bon anglais. de raconter son rêve. Donc, il y a un loup qui est rentré dans ma chambre et j'ai très très peur. Mais il y a un chasseur qui rentre, qui a tué le loup. Et le chasseur, c'est ma maman ou c'est mon papa. Et au bout d'une ou deux ou trois fois où l'enfant a digérer son cauchemar en racontant comment ça se finit bien, ben tout rentre dans l'ordre.
Catherine Acouboisiz du magazine Les Maternelles.
Alors, il y a une petite astuce, moi, que j'ai appris en travaillant sur ce sujet, c'est qu'il fallait pas, le soir, en prévention des cauchemars, chasser le monstre avec son enfant. On a peut-être tous un peu ce réflexe de dire, ne t'inquiète pas, parce que chasser le monstre, finalement, c'est dire qu'il existe. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu sur ce sujet.
Et Louise Junier?
Oui, c'est très juste, effectivement. Faut pas trop anticiper non plus, parce qu'on va commencer par lui faire peur après.
Tiens, nous accueillons, Aymeric. Bonjour, Aymeric.
Bonjour.
Quel est votre témoignage? Vous avez envie de partager votre expérience avec vos deux enfants qui ont visiblement des rythmes de sommeil assez différents.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, j'ai un premier enfant qui a 3 ans et demi et un autre petit nourrisson qui vient d'avoir 2 mois. Et on se rend compte dès maintenant, alors c'était un peu prématuré, j'ai pas envie de, je croise les doigts encore, mais que le second dort bien mieux que le premier. Mmh. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est parce qu'il y a plus de bruit à la maison pour le second, du fait du premier, bien sûr, qui chahute, qui fait des choses de son âge, que ça aide notre petit nourrisson à bien trouver son sommeil et à mieux dormir que quand on était que avec le premier ou, vraiment, on était les parents modèles sur le silence. On bougeait pas, on faisait pas de bruit. Et finalement, peut-être qu'après le retour avec l'expérience, on se demande si ça le gênait pas. Il ne demandait pas s'il n'était pas tout seul, si justement, c'était pas un peu anxiogène pour lui.
Ah, c'est intéressant, ça, cette réflexion d'Aymeric et Louise Junier.
Alors, en fait, c'est une réflexion que j'ai souvent entendue, mais qui n'est pas systématique. Alors, aussi, est-ce que le fait d'avoir un deuxième enfant, déjà, on est peut-être moins anxieux, on est peut-être moins inquiet, on connaît peut-être aussi mieux le sommeil. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là aussi qui joue du fait que les deuxièmes peuvent avoir un meilleur sommeil que les premiers? Mais ça se vérifie pas non plus tout le temps. Et c'est vrai que le fait de dormir dans le bruit, dans la recherche, on voit en fait que les oreilles n'ont pas de paupières. Pierre, et qu'idéalement, on devrait quand même favoriser un environnement qui soit assez calme pour le petit, pour ne pas que son cerveau en continu traite des éléments d'information auditive. Mais après, c'est un parti pris aussi.
Catherine Acouboisiz.
Alors, un environnement calme, mais peut-être un environnement, je parle encore sous votre contrôle, mais un environnement qui soit chaleureux. Oui. C'est-à-dire que j'ai aussi appris qu'il fallait, un peu tard, mes enfants sont grands maintenant, mais qu'il fallait investir la chambre du bébé dans la journée, par exemple. Qu'elle ne devienne pas un lieu, entre guillemets, d'abandon, enfin, associé à ça, en fait, où il y aurait ce silence pesant et en même temps une forme de froideur parce qu'on n'y a pas joué, on l'a pas, voilà.
Anne-Luca, puéricultrice, infirmière puéricultrice.
Alors, il y a différentes choses. Oui, moi, je pense que le bébé est habitué au mouvement et au bruit des in utero, et donc le mouvement et le bruit après n'est pas du tout quelque chose d'étranger pour lui, voire même c'est quelque chose de rassurant. Et c'est vrai que la solitude pour un bébé, c'est pas forcément très facile à gérer. Et puis pour les cauchemars, je voulais juste dire aussi que l'importance de l'histoire du soir, l'importance de pouvoir être raconté de l'imaginaire, du rêve, de faire voyager un petit peu l'enfant le soir, ça apaise, ça le distrait, ça emmène vers autre chose et ça favorise aussi beaucoup le sommeil.
Et les berceuses, Anne-Luca?
Et les berceuses, encore mieux. Moi, je pense, je suis une grande fan des berceuses et une grande partisane des berceuses. En particulier pour les mamans avec les tout petits nourrissons, on dit toujours aux parents, parlez à votre bébé. C'est quand même assez compliqué de raconter sa vie à son nourrisson. Par contre, on peut lui chanter des chansons. Et c'est une manière de parler et de bercer en même temps. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup chanté pour mes enfants, ne sachant pas trop quoi leur dire. Et il y a une mélopée, un rythme, un bercement. Et ça se retrouve dans toutes les cultures, c'est universel.
Gwenaëlle Boulay.
Et on parle des mamans, mais les papas, les voix graves des papas. Moi, j'ai un mari qui a beaucoup chanté et fait des berceuses le soir, et je sentais que sa voix grave était très, très apaisante, peut-être plus que la mienne le soir. Donc, les papas, mettez-vous à chanter, quoi.
Tiens, écoutons une note vocale. Merci beaucoup à Aymeric de nous avoir appelé. Écoutons une note vocale déposée par Magali sur l'appli France Inter.
Bonjour. Je vous laisse une petite note vocale avec une question concernant le sommeil de mon bébé Félix, qui a 8 mois. Il dort dans un lit à barreaux et cette nuit, typiquement, on a dû aller le voir plusieurs fois parce qu'il commence à se balader tout seul dans son lit, se déplace sur le ventre. Et cette nuit, on a été réveillé par des boum, boum, boum qui étaient en fait sa tête qui tapait contre les barreaux. Et je pense d'ailleurs qu'il faisait ça dans son sommeil un peu somnambule. Voilà, j'ai des questions du coup sur ce type de motricité endormie.
Et Louise Junier.
Alors en fait, je vois deux choses. Déjà, le fait qu'effectivement, il peut arriver que l'enfant se réveille la nuit et du coup, il a un besoin naturel de mobilité. Et du coup, il veut se réveiller. C'est ça que la présence du parent peut vraiment l'aider à réenchaîner avec un nouveau cycle de sommeil. Après, les boum 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 dont Madame parle, ça me fait penser un petit peu comme ça, vu de nez, à des rythmes nocturnes. Et les enfants, en fait, et c'est assez fréquent, je crois que ça concerne à peu près 9% des enfants, ce qui est beaucoup sur les stats que j'ai en tête, se tapent la tête contre les barreaux, boum, 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 en répété. Et d'ailleurs, des fois, ils se font très mal. Et d'ailleurs, des fois, des parents veulent mettre des tours de lit, ce qui est pas conseillé non plus. Bon, bref, ils se prennent la tête, mais ça peut me faire penser aussi à ça. En tout cas, c'est bénin.
21h, à peine couché, Ryan commence à pleurer.
Et c'est tous les soirs la même chose, après le rituel que lui fait Natacha, ça... Ça fonctionne pas vraiment, on l'entend pleurer, donc du coup on le récupère, on mange avec lui jusqu'à ce qu'il veuille bien se fatiguer vraiment et dormir. Il a ce qu'il veut là.
C'est un arnaqueur. Le pire c'est qu'il est fatigué là. Regarde sa tête. On aimerait bien avoir une soirée où on peut au moins pendant 1h30, 2h regarder un petit film tranquille pour se détendre.
Ça se produit plus, ce genre de situation. Donc forcément, ça joue un peu sur les nerfs. Et des fois, on se retrouve avec des tensions et on peut être énervé pour un rien. Voilà ce que ça génère à chaque fois d'avoir un enfant comme Ryan qui a du mal à dormir.
Ah, il pleure.
C'est... la maison des maternelles en 2018. Alors pourquoi certains bébés pleurent-ils avant de dormir? Certains parents pensent que leur bébé les manipule. Dans l'extrait, la maman dit même que son bébé âgé de 5 mois est un arnaqueur. Héloïse Junier.
Alors non, bonne nouvelle, ce n'est pas un arnaqueur. Et bonne nouvelle, il ne manipule pas les parents quand ils pleurent. En fait, les pleurs sont émis du système nerveux autonome du cerveau qui, comme son nom l'indique, est autonome. Donc on n'a pas d'action dessus. Donc les pleurs, on ne maîtrise pas de sécrétion lacrymale, ni pour l'adulte, ni pour l'enfant, et encore moins pour l'enfant.
Que signifient ces pleurs et que dit la recherche scientifique à ce sujet?
Alors, en état actuel des connaissances sur les pleurs aujourd'hui, on sait que les pleurs permettent en fait de décharger les tensions de l'enfant, que dans les larmes humaines seraient contenues des toxines induites par le stress, et du coup que l'enfant, avant de trouver le sommeil le soir, aussi pour baisser son niveau de tension, a besoin de pleurer. Ça favoriserait du coup l'endormissement.
C'est contre-intuitif?
C'est-à-dire?
Non, c'est-à-dire que le fait que l'enfant pleure avant d'aller dormir, on n'imagine pas que justement, ça va favoriser cet endormissement.
Oui, complètement. On n'y imagine pas. Alors pourtant, c'est une réalité. Il y a beaucoup de parents qui me racontent en entretien, par exemple, que la journée, ils ont des événements qui ont été très durs, des moments, par exemple, de stress, chez la SMAT, à la crèche, ou des moments de grands changements, qui ont généré plus de stress en eux, et du coup, qui vont générer aussi plus de pleurs le soir avant de dormir. Et c'est ok. C'est juste que ces pleurs, on les accompagne. C'est tout.
Anne-Lucas.
Oui, on les accompagne et puis on prend le temps aussi, c'est-à-dire que au moment où on couche son petit ou son enfant, on peut entendre des pleurs et avoir est-ce que les pleurs s'intensifient et qu'il faut y aller au bout d'un moment, ou est-ce que ce sont des pleurs justement avant l'endormissement et il faut surtout pas y aller parce que à ce moment-là on le réveille plus qu'autre chose. Je voudrais dire aussi que en dehors de ces pleurs-là qui sont très particuliers avant le sommeil, le pleur sert aussi à appeler un adulte quand on est en état de stress ou de détresse. Et ça peut être une détresse intérieure ou extérieure. Et l'enfant trop fatigué, l'enfant énervé, l'enfant qui hurle parce qu'il hurle aussi parce qu'il est incapable de gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui au niveau des émotions, et il appelle à l'aide. Et c'est pas forcément facile, mais il faut pas négliger le pleur, c'est aussi un appel.
Docteur Patrick Lemoine, je vais vous laisser filer parce que vous devez aller consulter. Oui. Un dernier conseil peut-être?
Deux, trois petits conseils, pas plus. Environnement naturel, ça veut dire lumière naturelle. Donc pendant la sieste, on ne ferme pas les volets, on laisse le bébé dormir à la lumière. C'est souvent oublié. Deuxièmement, la peur du noir n'existe pas avant l'âge de 2 ans. C'est les parents qui ont peur du noir, c'est pas les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il ne faut jamais rester dans la chambre du petit jusqu'au moment où il s'endort. Il faut le préparer, lui chanter une berceuse, le masser, le caresser, le rassurer, lui raconter une histoire. Mais il faut partir avant qu'il ne s'endorme, parce qu'il faut apprendre à l'enfant à s'endormir seul. Et la plupart des parents que je vois avec une insomnie, c'est parce qu'ils ne savent pas. Cette angoisse de la séparation du moment où on s'endort, ils ne l'ont pas maîtrisé eux-mêmes et ils l'induisent à leur enfant. Je ne suis pas là pour culpabiliser, bien sûr, mais l'enfant doit s'endormir seul. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Il ne faut surtout pas rester là jusqu'à ce moment-là. Et enfin, dernier conseil, c'est qu'un tout petit bébé qui pousse un cri toutes les heures, c'est parfaitement normal. Faut pas aller au galop. Et moi, ce que je préconise souvent aussi, quand le bébé est encore tout petit, c'est d'instaurer un tour de garde entre les deux parents. Une semaine, lui, une semaine, elle. Parce que les études montrent que c'est le parent de garde qui va être réveillé par les cris, alors que celui qui n'est pas de garde ne va pas être réveillé par les cris. Et ça leur permet de s'économiser.
Et Louise Junier, petite nuance avec l'un des propos du docteur Lemoine.
Alors, je suis d'accord sur l'ensemble des points, mais effectivement, alors juste une petite nuance pour avoir beaucoup étudié l'anthropologie, la psychologie interculturelle sur le sommeil. Cette volonté qu'on a en France, et on la porte beaucoup tous, hein, que l'enfant s'endorme tout seul et qu'il dorme tout seul, elle est très liée aussi à notre culture de maternage qu'on appelle distale et qui est très propre, ce que je disais tout à l'heure, à notre volonté d'autonomiser très précocement l'enfant. Il y a des cultures où l'enfant s'endort avec le parent, où il dort avec le parent, et c'est ok, ça convient à tout le monde. C'était aussi une norme que sociétale. Donc, la nuance peut-être.
Anne-Lucas.
Oui, je voudrais aussi juste rajouter quelque chose, c'est que pour les tout-petits, il ne faut pas négliger la douleur. C'est-à-dire qu'avant d'aller explorer le sommeil, etc., il faut vérifier que l'enfant ne soit pas douloureux. Il y a des reflux extrêmement douloureux chez les tout-petits, notamment quand ils sont allongés. Il y a des douleurs dentaires qui sont très fortes, des douleurs d'otite. C'est aussi, et les douleurs d'otite arrivent en particulier la nuit parce que l'enfant est plus allongé. Voilà, il faut avoir en tête avant d'aller explorer s'il n'y a pas une douleur qu'il faut aller calmer, où il faut aller passer chez le médecin, trouver un traitement. Et puis, je rejoins tout à fait pour les différences de culture, c'est-à-dire que nous, on est très à vouloir faire dormir l'enfant tout seul dans sa chambre. C'est pas le cas de la majorité des enfants du monde. C'est pas non plus très intuitif de laisser son enfant tout seul. L'enfant est plutôt considéré comme à être à côté de l'adulte, à être protégé par l'adulte qui est sans arrêt à côté de lui. Ça donne pas des enfants plus dépendants, ça donne pas des enfants plus immatures. C'est une manière de voir la parentalité et la place de l'enfant dans la famille. Mais un enfant qui sera, plus l'enfant sera rassuré, plus l'enfant sera capable de se dire que l'adulte va venir, que l'adulte sera là, plus l'enfant sera serein par la suite.
Docteur Lemoine, une petite rectification.
Oui, je voudrais juste rectifier un peu ce que j'ai dit. Je ne suis pas du tout opposé au cododo, qui est très à la mode et qui me paraît positif, où l'enfant dort même dans le lit avec ses parents, ça n'est pas un problème et c'est même très bien. Mais ce dont je parle, c'est le moment de l'endormissement. Mmh. C'est-à-dire le moment où l'enfant doit s'endormir, il doit l'acquérir, et c'est le moment où il doit être seul. Donc même en cas de cododo, c'est mieux de préparer l'enfant. On part quand il va s'endormir, et on revient, on peut dormir avec lui. C'est pas un souci, et vous avez parfaitement raison. Culturellement, la majorité des ethnies de la planète dorment avec le bébé, et ça fait des enfants, au contraire, très autonomes.
Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup, docteur Lemoine. Dans quelques instants, nous explorerons quelques idées reçues sur le sommeil des enfants. Ce sera juste après la chronique Ma vie de parent de Gonaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors cette semaine, Gwenaëlle, vous nous offrez une petite suite à votre chronique de la semaine dernière.
En effet, je m'offre cette petite coquetterie. Previously, dans ma vie de parent.
Précédemment.
Je vous avais parlé des 100 premiers jours de bébé. Donc période durant laquelle il ne servait à rien de tenter de réguler un bébé tant sur le plan de la nourriture que du sommeil. J'avoue qu'à cette occasion, j'avais un peu fait mousser mon côté maman cool et attentive, capable de puiser méchamment dans ses réserves pour le bien de mon petit.
Et aujourd'hui, vous allez nous dévoiler une autre facette de votre personnalité.
Oui, oui, tout à fait, parce que si pendant 100 jours, j'ai été cool, je peux vous dire qu'à 101 jours, la fête était terminée à la maison. Et côté sommeil, nous avons mis en place tout un paquet de redoutables stratagèmes.
À commencer par la technique observation-réaction, qu'est-ce que c'est
Ah oui, cette fois, je crois qu'une de mes amies en visite chez moi m'a littéralement prise pour une allumée. Mais j'assume et en bonne camarade, je partage. En gros, à partir de 3 mois, je me suis transformée en maniaque de la grille d'observation. Alors si, je vous jure, pour mettre en pratique l'idée qu'il fallait d'abord observer son enfant pour comprendre son rythme, j'ai créé un petit tableau genre Excel composé de plein de petites cases horaires que j'ai coloriées scrupuleusement pendant 2 semaines. Alors en vert, les moments d'éveil, en rouge, les gros pleurs, en jaune, les heures de faim et en noir, les signes de fatigue et de sommeil. Alors bénéfice numéro 1 de cette technique, ceci occupe très bien une journée de congé maternité. Bénéfice numéro 2, oh magie. Derrière ce qui m'apparaissait jusqu'alors comme un chaos absolu, se dessinait en fait une ébauche de rythme assez régulier. Ne me restait plus ensuite qu'à resserrer ces phases autour d'horaires relativement fixes et hop, bonheur, satisfaction, joie, j'étais à nouveau redevenu à peu près maître de mon temps.
Alors ça fonctionne le jour, mais la nuit?
Eh oui, la nuit, l'angoisse du jeune parent. Et pour cause, quand j'ai croisé mon collègue Martin cette semaine, qui s'endormait à moitié sur la photocopieuse, tant il était au bout de sa vie, rapport à son jumeau qui se réveille 5, 6, 7 fois par nuit, je me suis souvenue. Je me suis souvenue que le pire dans les réveils nocturnes, c'était pas les réveils. Ce qui rend fou, c'est ce côté tellement aléatoire, imprévisible. Parce qu'effectivement, on dit faire ses nuits. Mais en fait, ça veut rien dire avoir un paquet de temps entre la tétine tombée, que vous rêvez de lui scotcher sur la bouche, les dents qui poussent, pour laquelle vous tentez tour à tour les capsules de camélia, les massages odolodents, le fameux collier d'ambre auquel vous croyez dur comme fer, avant de finir sur les doses maximales de pipettes de doliprane pour éviter de vous faire tuer par les voisins. Et puis après les dents, bah, y a le lit mouillé. Mais bon, alors ça, je vous avoue qu'on a un petit peu triché, nous. Ça a été couche de nuit jusqu'à ce que nos bobins nous apportent la preuve irréfutable au moins 7 jours de suite que la couche était bien sèche le matin. Et là, ok chérie, top là, t'es un chef. Tu peux dormir cul nu sans réveiller papa-maman. On a un petit peu grugé.
Alors que faire pour retrouver un sommeil paisible?
Bah, franchement, si je savais, je vous livrerais mes secrets. Hein, les personnes ici sont bien mieux placées que moi. Ce qui est sûr, c'est que quand, dans bien des domaines de parentalité, quand on sent vraiment nos capacités mises à rude épreuve, je pense qu'il faut se faire aider. Après, je peux quand même tenter de partager mes quelques remèdes, qui valent ce qu'ils valent, mais qui, chance ou preuve de leur efficacité, ont plutôt fait leur preuve, effectivement. Donc, par exemple, dans les moments de grande crise, faire une nuit sur deux avec votre conjoint ou votre conjointe. Boule caisse à l'appui. Bon, ok, vous allez passer une nuit pourrie, mais finalement pas plus pourrie que les autres. Et puis au moins, vous savez que vous pourrez récupérer la nuit d'après. Et si vous êtes parent solo, je dirais pourquoi ne pas faire l'appel à un ami. Juste pour une nuit, juste histoire de récupérer, de souffler. Deuxièmement, la force du rituel, on en a parlé. Les enfants sont des petits vieux, ils aiment la régularité. Pipi, les dents, une histoire, pas 20, une, allez deux si vous êtes fait avoir, et au lit. Et pour ne pas laisser vous faire avoir par le coucher qui tire en longueur, trouvez une vraie bonne motivation pour votre temps des grands. Bref, soyez vous-même super motivé par cette séparation du soir.
Dernier petit conseil.
Alors là, je vais me faire allumer, mais j'y vais, oui. Conseil alors, ultra précieux de ma marraine adorée. Au lit et après, vie ta vie. En gros, rien ne sert de s'acharner sur le fait que les enfants dorment du moment qu'ils restent dans leur chambre. Et sans écran, bien sûr. Ils peuvent regarder un livre, jouer avec leur doudou, faire ce qu'ils veulent dans leur lit. Mais je pense effectivement que s'endormir seul et donc se réendormir seul suite à un réveil, ça s'apprend. Évitons donc de nous rendre indispensables à leur endormissement. Pardon. Et puis enfin, allez, je la tente, mais si vous êtes au bout de votre vie, ce bon vieux dicton auquel j'ose dire que nous avons parfois eu recours... Il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a que des portes mal fermées.
Une chronique testée et approuvée par nos invités. Ma vie de parent à podcaster sur l'appli France Inter et à partager sur les réseaux sociaux. Dans un instant, quelques idées reçues sur le sommeil des jeunes enfants. On les explore juste après Sébastien Tellier, Porté par le vent à 10h51. Sébastien Tellier, Porté par le vent.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions et vos témoignages sur le sommeil des jeunes enfants au 01 45 24 7000. Quelques idées reçues pour terminer cette émission. Héloïse Junier, je rappelle que vous êtes psychologue. Un enfant doit apprendre à dormir seul.
Alors, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, effectivement, au milieu d'émission, à mon sens, quand on regarde un petit peu la psychologie interculturelle et comment dorment les enfants aux quatre coins de la planète, à mon sens, il n'y a aucune obligation à apprendre un enfant à s'endormir tout seul. Et encore plus s'il est en cododo, parce que s'il est en cododo, la nuit, il va se réveiller, il va retrouver la proximité de son parent. Par contre, effectivement, si l'enfant dort dans sa chambre, qu'il s'endort avec le parent et que quand il se réveille, le parent n'est plus là, ça peut créer une anxiété qui, chez le tempérament hautement réactif, peut être mal vécue.
Il faut laisser un bébé pleurer, il finira bien par s'endormir. Anne-Lucas.
Alors, non. Non, il ne faut pas laisser un bébé pleurer, si ce n'est ces petits pleurs dont on a parlé au moment du couchage, où l'enfant ne dit rien et tout d'un coup, il y a un petit « ouah », un autre petit « ouah », et on attend de voir la modulation. Et en général, l'enfant s'endort, on n'a pas à intervenir. Un enfant qui pleure est un enfant qui appelle à l'aide.
Héloïse Junier.
Ah oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, du moment que l'enfant pleure, il faut y aller, il faut apporter une proximité. Par contre, juste une petite nuance, il y a des vocalises plaintives qu'on entend entre deux cycles. En fait, l'enfant n'est pas pleinement réveillé et si le parent débarque systématiquement à chaque fois, il peut créer un plein réveil. Donc juste là, attendre quelques secondes, voir si c'est vraiment un vrai réveil dans la nuit ou un faux réveil.
Catherine Couboisiz, journaliste spécialiste des questions parentales.
Alors, en fait, j'entends bien les conseils qui sont donnés. Je me place là du côté vraiment des parents. Je fais l'avocat de la défense. En fait, un enfant qui pleure, il faut pas aller le voir. On entend ça. Ok. Ouais. Parfois, on n'en peut plus. Et donc, c'est bien aussi peut-être de dire aux parents, faites ce que vous êtes capable de faire. Parce que si on retourne dans la chambre de l'enfant énervé, ça va pas forcément aider. Donc, où je rebondis aussi sur le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de ce bébé entre guillemets manipulateur. En fait, si on a vraiment besoin de regarder ce film, peut-être que l'idée c'est de laisser l'enfant, vous disiez, dans son lit, avec un doudou, avec un livre, avec, voilà, et de le laisser en sécurité et de se ressourcer avant de retourner dans cette chambre. Donc voilà, pour un peu faire l'avocat de la défense par rapport aux injonctions qui peuvent être aussi culpabilisantes. Donc on force pas un bébé à dormir non plus, d'après ce que j'ai compris.
Oui, complètement. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, dans le sens où si le parent à chaque fois se met une pression de dingue pour répondre aux peurs de son bébé, si le parent est lui-même en colère, si lui-même énervé, si lui-même il est dans une forme d'agitation motrice, il y a aussi un risque de maltraitance. Et ça, on le sait. C'est quelque chose de complètement avéré. Et en chaque année, entre 120 et 240 bébés sont secoués par leurs parents, ou alors quelqu'un d'autre. C'est une réalité. Donc, faut se faire confiance. Si on n'est pas capable, c'est ok, c'est normal. Moi aussi, j'ai pas été capable parfois d'accueillir les pleurs de mes bébés. On laisse le bébé et on s'en va.
Pascal, assistante maternelle à Toulouse, nous dit « Certains parents ne veulent pas que leurs enfants dorment la journée pour qu'ils dorment la nuit. » Moi, je pense que c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous, Héloïse Junier ?
Alors, effectivement, c'est une idée reçue de penser que plus on va les fatiguer, plus on va les épuiser et plus ils vont dormir la nuit. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être tellement fatigués et excités que ça peut venir aussi augmenter le niveau de cortisol, d'excitation, et ils vont plus avoir de mal à s'endormir le soir.
Alors, au terme de cette émission, pouvez-vous nous rappeler les règles d'or, les règles fondamentales du sommeil des jeunes enfants, Catherine Couboisiz, au terme de votre enquête?
Je crois que les règles fondamentales, en tout cas que j'ai moi retenues, c'est qu'il fallait s'écouter en tant que parent, être dans l'intuition par rapport à ce que l'enfant nous dit, répondre à ses besoins aussi primaires, vérifier qu'il n'y a pas de choses basiques qui ne vont pas, l'enfant a soif, a la couche sale, voilà. Aussi consulter si on ne s'en sort pas, ça c'est important. Et puis, bon là c'est moins drôle, mais il faut peut-être aussi être dans une forme d'acceptation, on va souffrir un peu sur le sommeil les premiers temps.
Héloïse Junier, les règles d'or?
Oui, ne pas idéaliser le sommeil du jeune enfant, tout simplement, et s'informer sur comment il fonctionne véritablement, ça peut vraiment aider.
Être attentif aussi peut-être à l'ambiance de la chambre, éviter les écrans aussi.
Éviter les écrans, l'ambiance
c'est
de la
une
chambre.
Base, les écrans avant l'endormissement.
Oui, tout à fait.
Anne-Lucas, d'autres règles d'or pour terminer?
Moi j'aurais voulu dire se faire confiance à son bébé dans sa capacité à s'endormir, se faire confiance dans sa capacité à pouvoir aussi gérer comme on peut, parfois on peut pas, parfois on peut, mais on y arrive. S'autoriser à faire des siestes avec son bébé sur soi aussi, c'est bien. Et puis moi je rajouterais aussi les rituels du soir, les histoires, les chansons, les moments très doux, très chaleureux, très intimes qui favorisent le sommeil.
Et attention, on l'a dit au tout début de l'émission, à la température corporelle de l'enfant, pas trop chaud. Voilà. Bon. En tout cas, on peut lire avec profit, Héloïse Junier, votre livre Le sommeil du jeune enfant, basé sur des données scientifiques, sous-titré Pour les parents qui ne font pas leur nuit. C'est publié chez Duno et Catherine Couboisiz. On peut lire le tout premier numéro de la revue Les Maternelles, actuellement en kiosque. Et merci Anne-Lucas d'être intervenue dans cette émission. Demain, on s'intéresse au changement de prénom. Avez-vous déjà eu envie de changer le vôtre? Dites-nous également les prénoms que vous avez envie de donner à votre futur enfant. Les débats dans la famille. On évoquera également les prénoms en vogue en ce moment. Vous pouvez nous contacter dès maintenant sur l'appli France Inter.